Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Deeply Rooted. Ce soir, on va retourner à Los Angeles, là où vous avez laissé la dernière fois. Je suis toujours accompagné de mes deux compères, Joachim et Momo. Comment ça va les gars?
Ça va nickel, ça fait toujours plaisir de parler de LA. On va changer un peu de ton par rapport à la dernière fois, mais...
On va changer de ton et d'époque.
Encore une fois.
Ouais.
On va même changer de baleine, hein, si je peux me permettre une petite blague foireuse dès le début de l'émission, mais ouais. OP, pour parler de LA.
On part donc sur les chapeaux de roue. On va changer d'époque, puisqu'on va s'intéresser à une période un peu plus récente. On s'était arrêté dans les années 2000, la dernière fois.
Fin des années 90, début 2000.
Voilà, et là, on va plus s'axer à partir des années 2010. Que la nouvelle vague de Los Angeles, même s'il y a beaucoup de groupes qui n'ont pas grand-chose à voir entre eux forcément, les nouveaux représentants, on va dire.
Ouais, juste faire un état des lieux un peu, ça nous permet de parler de plein de trucs, enfin, de nos goûts respectifs, de tout ce qu'on kiffe, et puis, de rester un peu dans une continuité, ce qu'on n'avait pas encore fait jusqu'ici, on prolonge un peu l'émission d'avant, donc c'était sympa.
Voilà, donc en deux volets sur Los Angeles, on va vous faire un petit format d'émission qui va un peu changer aussi. Du coup, on va pas revenir forcément sur l'historique de Los Angeles, vu qu'on l'a déjà fait la dernière fois. On le fera que brièvement et on va faire plutôt des parties sur des groupes, des collectifs, des rappeurs. Essayer de faire un petit tour d'horizon de tout ce qui se fait au niveau rap dans le coin. On vous rappelle que vous pouvez toujours écouter les anciennes émissions, du coup, maintenant, en plus sur les plateformes de streaming, Spotify, Apple notamment, et toujours sur Mixcloud aussi. Également et suivre nos réseaux sociaux, n'hésitez pas à aller liker notre page Facebook, on essaye d'alimenter autant qu'on peut. On va s'envoyer peut-être un premier son, Joachim.
Un son qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est l'intro de To Pimp a Butterfly du rappeur Kendrick Lamar, que probablement quand même nombreux d'entre vous ont déjà écouté. C'est donc le morceau Westless Theory avec un monsieur qui s'appelle George Clinton, dont on vous a parlé aussi la dernière fois, donc ça doit aussi vous rappeler certaines choses. On boucle la boucle et on commence une nouvelle. Westless Theory de Kendrick Lamar.
Allez, à tout de suite. De retour dans Deeply Rooted d'après, ce sont de Kendrick Lamar, Westless Theory. Dans cette première partie, on va faire un peu la jonction avec justement donc, l'émission précédente sur le G-Funk qui s'était arrêté, comme on l'avait dit en intro, fin des années 90. On va parler un peu déjà de cette période de transition qui a eu, qui correspond à la période de transition musicale de Dr. Dre en grande partie. Est-ce que Jojo, tu peux nous dire un mot sur cette période?
Complètement, en fait. Pour mettre une sorte de point final à notre émission de la dernière fois, faut dire que Dr. Dre en 99, il sort l'album Chronique 2001, où il commence à amener quand même des logique. Rappeurs qui sont... oui, c'est tout à fait logique. Il est dans le futur, hein, on peut pas tout comprendre. Et du coup, il commence à ramener des rappeurs un peu hors LA, enfin, il commence vraiment à s'entourer des rappeurs de partout, et notamment Eminem sur cet album, c'est assez évident, et il va produire les albums d'Eminem. Eminem, lui, va amener tout ce qui est G-Unit, 50 Cent, etc. Et en plus, donc, le rappeur qui va nous intéresser, enfin, dont on va brièvement parler ici, c'est The Game, qui a vraiment représenté LA dans les années 2000, du coup. Et avec The Documentary, il sort vraiment un album, un des gros monstres des années 2000 pour LA, et peut-être un des seuls, finalement, parce qu'il n'y a pas eu... Enfin, il y a eu des choses, hein. Il y a eu pas mal de choses qui sont passées à LA, mais c'est beaucoup moins représentatif, beaucoup moins, c'est moins relié à l'identité même, enfin, ce qu'on avait parlé dans l'émission précédente, le son vraiment ensoleillé, tu vois, pour chiller, etc. Donc voilà, The Game qui sort de Documentary, et après, en dehors de lui, de The Game, du coup, il y a d'autres choses qui se passent, mais qui sont beaucoup un peu plus underground. Je pense à le label Stone's Throw, Dirty Science, du producteur Exilé. Exil, il s'appelle, hein, c'est son nom de famille, son nom.
Ouais, enfin, il se passe des trucs, mais c'est plus un trou médiatique que artistique. Et puis, avec le départ de Dr. Dre, c'est quand même... un peu vide là-bas, les gens font leur mixture dans leur coin.
Oui, c'est vrai,
quoi.
Que c'est aussi là que Dr. Dre s'est mis à parler de son prochain album Detox, qui n'est toujours pas sorti. C'est la plus grande blague de l'histoire du rap, ça, je crois, enfin la plus grande farce.
Je pense que Trump réussirait à construire son mur avant que Dr. Dre nous sorte Detox, quoi. Tristesse. Mais du coup, ouais, il s'est quand même passé des choses. Et certes, il y a eu ce trou médiatique. Mais il y avait un petit rookie qui attendait que son heure sonne à LA, qui s'appelle Nipsey Hussle, qui est un mec de Crenshaw, de Slauson Avenue. Donc ce petit gars-là, il a commencé à rapper en 2005 avec une série de, enfin avec une première tape qui s'appelait Slauson Boys. Pour voilà, t'es obligé de dédicacer ton quartier, du coup tu fais une petite tape avec le nom de là où tu traînes. Mais c'est vraiment vers 2008 qu'il commence à se faire un nom à minima localement à Los Angeles, avec une série de mixtapes qui s'appelle Bullets and Gate No Name, sur lequel il invite The Game, dont on vous a parlé d'ailleurs, qui à ce moment-là était une star. Donc ça lui donne de l'impulsion. Il fait même un feat avec Drake, que Jojo chérit tellement. Donc sa notoriété est grande.
Drake à cette époque-là était surtout un acteur de série de soap un peu pourri.
Adolescent.
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est Degrassi. Bon, je regardais, hein, voilà, nos homos, comme ils disent les Américains, mais je regardais Degrassi. Bref. Donc ouais, sa notoriété grandit à un point où il fait la couve de XXL. XXL Magazine, qui est un magazine référence sur le rap aux États-Unis, et il fait pas que la couve, en fait, il fait partie de ce qu'ils appellent là-bas les top 10 freshmen of the year. Donc en gros, ils ont pour habitude chaque année de faire une photo avec les 10 rappeurs.
C'est une grosse institution aux États-Unis, les freshmen, tous les ans on en parle, ils ont pas toujours confirmé, mais à chaque fois c'est quand même un gros sujet de discussion, quoi.
Bah, surtout sur l'année de Nipsey Hussle, où donc ils font une photo avec les 10 rappeurs les plus en vue, les plus jeunes, on va dire, mais qui sont censés bientôt tout flinguer. Et juste sur l'année de Nipsey Hussle, pour vous citer, il y a dans les mecs connus mais un peu moins, il y a Foshawn, il y a J-Rock, dont on va vous parler un peu plus tard, J. Cole, Big Sean et un certain Wiz Khalifa, en plus de Nipsey Hussle. Donc c'est pour vous dire l'état de la classe à ce moment-là. Et il est clairement considéré à ce moment-là comme étant la relève du rap de LA avant un certain Kendrick Lamar, dont on va aussi vous parler un peu plus tard. Et fait que toute sa notoriété, il doit sortir un album avec Epic Records, je crois. Et sauf que ça se passe pas du tout. C'est pour des problèmes de contrat, il n'y a pas le temps, il est un peu relégué au second rang, donc ça sort pas. Et il devait avoir plein de gros producteurs et tout, mais ça s'est pas passé. Du coup, il se retrouve à quitter Epic Records et à tout gérer solo. Et au final, mais quand je dis solo, c'est en indépendant, au final, c'est là où ça explose vraiment. Il crée son label qui s'appelle All Money In, No Money Out, pour vous dire que le mec, il veut faire du blé à minima. Et il sort directement une série de tapes pour accompagner ce projet-là qui s'appelle The Marathon. Et c'est... moi, je kiffe Nipsey Hussle au-delà de la musique parce qu'il y a tout un état d'esprit derrière. Il a appelé ses mixtapes The Marathon parce qu'il considère que le cheminement que t'as quand t'es un artiste indépendant, bah, c'est une course en permanence. T'es obligé de tout le temps faire tes preuves, tu dois te gérer, gérer ta promo, gérer ton label, les artistes qu'il y a dessus. C'est beaucoup plus compliqué que si t'es signé sur une maison de disques. Et... Donc ouais, lui son but c'est de grandir et...
Le thème de la course c'est un peu cohérent finalement, puisqu'il a, bon tu vas forcément y venir, mais il a sorti son album qui s'appelle Victory Lab, donc le dernier tour, il y a un an à peu près.
Ouais c'est ça, il y a un peu moins d'un an, c'est sorti en février ou mars 2018, donc elle est un an grosso merdo. Et ouais, c'est tout est cohérent dans ce qu'il fait, et pour vous dire, le mec a un peu étudié, moi je trouve que c'est un peu un descendant de... Le mec dont on a parlé avant, de l'oncle Luc et de... comment il s'appelle, Percy Miller, c'est quoi son... De Masterpiece.
Masterpiece, ouais.
Voilà, où le mec a étudié un peu ce qui se faisait en économie. Et le gars a décidé de sortir une deux séries de mixtapes tirées à 1000 exemplaires physiquement, qui étaient vendues pour la première, c'était... j'ai oublié le nom. C'était Crenshaw, ouais, voilà. Et la deuxième, c'était Mailbox Money. La première était à $100 et la deuxième à $1000. Et il en a mis 1000 exemplaires physique. Tu pouvais télécharger à, je crois, il y a limite gratos à certains endroits, à prix normal à $20 à d'autres sur le site. Mais lui, il voulait en fait se réapproprier son statut d'artiste, et c'est la première à $100, elles sont toutes parties, les 1000, elles ont toutes été achetées. Donc Jay-Z qui a acheté 100 mixtapes, ce qui est un peu fou quand même. Et l'autre, par contre, tout n'est pas parti, mais il y a quand même eu du soutien là-dessus. Il a d'ailleurs même lancé une campagne de financement qui s'appelle Pro to Pay, donc c'était un peu toutes ces campagnes publicitaires, pas publicitaires, mais de financement avant l'heure au final, quoi. Bon, pour en revenir à la musique, à proprement parler de ce qu'il fait, c'est un mec, c'est pas une plume, il a un bon flow, mais c'est pas non plus un flow de dingue, mais c'est quelqu'un de très direct, tu vois, c'est de la punchline vérité, c'est rythmé. Et
tu
lui...
t'entends l'homme directement quand il répond, c'est ça, moi je trouve, comme tu dis, il est très direct, tu vois, c'est ça, que c'est pas forcément une plume, mais t'entends directement son environnement et...
Ouais, c'est pas de l'artifice, tu vois, tu sens vraiment que c'est lui qui parle, y a pas un personnage ou c'est pas un délire qui se crée ou quoi, c'est... Puis bon, après le mec fait aussi partie d'un gang... J'ai oublié le nom parce qu'il y en a tellement. Ah oui, c'est les Rolling 60 Neighborhoods de chez les Crips. Donc ouais, on est dans ce délire là. Et puis il travaille aussi avec des mecs dont on va parler un peu après. Et en fait, il y a toute cette émulsion qui va se faire avec DJ Moutard, THC, qui sont des producteurs dont on va parler, des beatmakers dont on va parler plus tard. Et encore au niveau du business, j'y repense. Lui, il a lancé sa marque de sap à Crenshaw et il a décidé aussi de mettre sa musique gratos sur internet, mais par contre de faire du business autrement, genre en vendant des albums et des entrées en studio avec lui, ou des places de concert. En fait, le mec a décidé de vendre une expérience plutôt que de vendre... Enfin, il se dit la musique, lui, il considère que maintenant, tout le monde peut l'avoir gratuitement, donc soit c'est un fait. Maintenant, il faut qu'on propose autre chose qui puisse pas se télécharger ou savoir illégalement. Que dire d'autre ? C'est un mec qui est impliqué dans sa communauté aussi. Et c'est aussi un mec qui a sorti un single avec un autre mec dont on va parler après, un autre rappeur qui s'appelle YG.
Il a sorti plusieurs singles avec YG d'ailleurs.
Ouais, entre autres, mais là, sur le côté politique, ils ont sorti un single qui s'appelle Fuck Donald Trump qui a fait du bruit.
On recommande.
Ouais, et voilà.
Là, on peut recommander globalement son dernier projet, donc justement, que vous évoquiez
Victory Lap, ouais,
Victory Lap, qui a été pas mal reçu par les critiques. Justement, on l'a.
Moi, je conseille sa discographie globalement. Il y a peut-être des trucs à sauter, mais.
Alors, tu vois, pour être honnête, j'ai bien aimé le projet, mais je pense que c'est vraiment un truc qui prend encore plus de la valeur quand tu connais le personnage et que tu connais un peu tout son parcours. Tu vois, justement, comme l'album s'appelle Victory Lap, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a eu tout un truc avant. Donc je l'ai bien aimé comme ça, mais je pense qu'il est encore mieux si on connaît vraiment ce qu'il a fait avant aussi.
Ah ouais, moi quand je l'ai vu un peu sortir tout au début, même avant cette émission et que je le suivais, je comprenais pas trop où est-ce qu'il voulait en venir. Et puis quand j'ai commencé à comprendre d'où il venait, ce qu'il a fait pour s'en sortir, tout ce côté indépendant, tous les noms qu'il donnait à cette tape et tout, bah, tu comprends le personnage, tu commences à apprécier ouais, cette discographie globalement. Et t'as écouté, moi je recommande, et du coup bah, on va s'écouter un petit son de lui.
Ouais, exactement, on s'écoute Rap Niggaz.
Qui est issu du dernier projet Victory Lap et qui est
et
un bon banger.
Et juste après, on enchaîne avec YG et Drake, Who Do You Love, qui nous fera une transition parfaite sur notre deuxième partie.
Fucking Drake est partout.
À tout de suite.
Yes.
De retour, vous êtes toujours sur Deeply Rooted et on vient de s'écouter un son que j'apprécie tout particulièrement, avec des artistes que j'apprécie tout particulièrement, et là, ça va être le clivage dans l'émission. C'était donc YG.
Oh, t'es un peu facile quand même, hein.
Et Drake sur une prod du fantastique DJ Mustard.
Alors on va lancer le débat. Ouais.
Nous allons lancer le débat maintenant. Donc DJ Mustard, c'est le producteur qui a enjaillé la côte ouest et l'Amérique, allez, soyons fous.
Et le monde, allez, soyez fous.
Et même le monde. C'est une collaboration donc avec YG sur le premier album.
My Crazy Life.
Donc West Coast, mais qui en virage un peu dans la carrière de YG, qui est un rappeur qui faisait un peu d'autres choses à la base, et qui avec la rencontre avec ce producteur au prod minimaliste et très efficace.
Ah oui, je pense que minimaliste c'est le terme.
Bah, dans le son qu'on vous a mis là, c'est quand même c'est la recette en fait. C'est-à-dire que il y a des grosses basses bien grasses, il y a trois notes de piano pour créer le corps du beat, si tu veux.
Mélodie entraînante.
Côté mélodieux, voilà, quoi.
Exactement. Bon, ça fait trois notes, quoi. Et des petits sortes de cris là, qui. Comme ça, tu vois, qui ressort en boucle, enfin des petites boucles comme ça. Et alors, voilà, ça marche. Hein.
Voilà, donc ce qui est bien, c'est que ça marche. On est tous à peu près d'accord là-dessus. Après, c'est vrai que.
Ce qui est incroyable, c'est que c'est pas forcément redondant, mais. Enfin, c'est tout le temps la même chose, mais ça fonctionne tout le temps.
Oui, c'est un peu redondant, après ça reste cool à écouter. Enfin, en vrai, je critique pas tellement ça. C'est sûr que au bout d'un moment.
Oui, au bout d'un moment, on a fait le tour. Ouais. Il y a eu beaucoup de rejetons d'ailleurs de DJ Mustard qui ont essayé de faire aussi le même style à un moment. C'est pour ça que ça a poussé ça jusqu'à un peu nous dégoûter. Mais pour revenir à l'album justement et à YG, l'album est bon. Moi, je sais que je peux l'écouter du début à la fin et prendre mon pied.
C'est un gros album entertainment. C'est pas un album fait pour réfléchir, ouais, mais ça s'écoute bien.
Et
YG et Nipsey Hussle d'ailleurs qui ont sorti un album en collab qu'on vous conseille aussi, très lourd.
Donc DJ Mustard, c'est tout ce que vous aviez à dire?
Bah, on en avait déjà parlé pour l'émission Hi-Fi. Une partie de ses influences, il s'est influencé des producteurs comme Trax-A-Million ou je sais plus comment il s'appelle, le producteur D40 là, bon bref. Il a une formule, et je pense qu'on vous a mis le morceau le plus représentatif de cette formule. C'est sympa, c'est cool, ça s'écoute en club. Il est quand même hyper influent dans le sens où il a amené LA à faire un son club, ce qui n'était pas forcément le cas avant, c'était plus un truc chill, etc. Son de ride et tout. Et lui, il a amené un peu le son club typé LA, quoi.
Et dans ce son, en plus, qu'on vient de s'écouter, il y a la deuxième recette magique pour faire un tube, c'est-à-dire Drake. Le featuring de Drake. Qui fonctionne.
Qui critique Drake.
Deuxième débat.
Mais celui-là, on l'a déjà depuis les premières émissions pour ceux qui avaient écouté avec notre fameuse minute Drake. Ça faisait un petit moment qu'on n'était pas revenu là-dessus. Bon, là, c'est juste pour dire qu'il avait fait une collaboration qui marche et que.
Ah, bah lui, de toute façon, dès qu'il y a un truc qui marche, il va aller essayer de renifler un petit coup et. Non, mais en vrai. il a un très bon flair, tu vois, mais. Bon, voilà, il sait se positionner en tout cas.
Donc voilà, cet album à l'écouter YG pour ceux voilà, qui veulent se détendre et prendre du plaisir. On va passer maintenant à un autre collectif parce qu'il faut s'attaquer à ce gros morceau également du secteur, c'est TDE.
Yes, Top Dog Entertainment.
Est-ce que vous pouvez nous faire un petit topo sur qu'est-ce que c'est et...
Oui, du coup TDE, Top Dog, comme vient de le dire Momo, c'est un groupe, un collectif, un label à la base qui s'est formé assez tôt finalement. C'est un mec qui s'appelle Anthony Tiffitt, qui est un drôle de nom d'ailleurs, je trouve, au début des années 2000, donc vers 2002-2003. Et il signe le rappeur J-Rock, qui est un jeune prometteur. En fait, je ne sais plus comment s'appelle son acolyte, je crois qu'il s'appelle Punch ou un truc comme ça. Et leur délire, c'est vraiment de choper les jeunes pousses et tout, genre les jeunes talents et de les faire émerger. Ils sont assez ouverts d'esprit, enfin vraiment ils ont une bonne oreille pour trouver les talents, que ce soit vraiment dans des registres différents. Mais du coup le premier rappeur qu'ils vont choper c'est J-Rock qui fera partie du groupe Black Hippie qu'on va essentiellement, parce que TDE aujourd'hui c'est devenu presque un empire, mais on va essentiellement parler de Black Hippie, qui est donc le groupe qui regroupe Kendrick Lamar, J-Rock donc Absol et Schoolboy Q.
Yak, yak, yak.
Schoolboy Q qui intègre le dernier en 2009.
Ouais. C'est lui qui a eu. Je crois que c'est lui qui voulait absolument monter le groupe Black Hippie Schoolboy Q. Parce qu'il a eu un peu du mal à s'intégrer au début, mais. Je crois
ouais,
que
ça a pris du temps. Après, c'est vrai que, en tout cas, c'est une fois que lui, il a fini. Ça faisait longtemps qu'il traînait avec eux. Et il a fini par signer sur TDE. Et là, ils ont officialisé leur truc Black Hippie et tout.
Ouais, et enfin. On aime tous Kendrick Lamar, mais on n'aime pas forcément le temps de s'attarder dessus, parce que ça mériterait pour lui au moins juste une émission pour lui. Donc c'est un peu un regret qu'on s'étale pas trop sur le sujet, mais voilà, ils sont tous très bons chez TDE. En solo, en groupe, ça performe bien. Et moi, ce que j'avais lu, c'est que justement Anthony Tiffitt, enfin le mec qui a créé... TDE s'est inspiré de Tech N9ne, c'est-à-dire que eux, leur formule c'est,
ouais, c'est ça, ouais.
Repérer des jeunes pousses comme Erkali, non je plaisante, repérer des jeunes pousses, et c'est souvent en fait, enfin la plupart ont été membres de gangs, c'est un peu les sauver de leur environnement, les mecs sont, enfin ils détectent un petit talent, et on les enferme un peu en studio, on essaye pas de les formater, mais... voilà, d'exploiter leur potentiel. Ils ont des producteurs maison. En fait, tout est fait maison, tout est géré entre eux. Et c'est pour ça
ouais,
que...
Leur studio, il s'appelle House of Pain, non je crois
ouais,
que c'est ça.
C'est exactement ça. Ouais. Pour te dire que c'est un lieu de torture, entre guillemets. Quoi, c'est...
Bah, tu vas bosser jusqu'à plus en pouvoir. Quoi.
Et ouais, pour l'anecdote, d'ailleurs, Schoolboy Q, Bah, à la base, il a été sorti de bah, parce qu'il connaît leur... C'est l'ingénieur son qui s'appelle Ali, Made by Ali de TDE. C'est lui qui l'a fait rentrer. Et au final, bon, il rappait pas forcément. Il a passé un an ou deux à squatter le canapé, à écrire des textes, machin. Et au final, ça, enfin, il s'est pris au jeu. Il a commencé à gratter à mort, à enregistrer avec les autres. Et ça donne la carrière de Schoolboy Q maintenant, qui est un très gros rappeur de la West Coast, quoi. On vous conseille aussi sa discographie.
Ouais, bah si on peut revenir quand même sur un peu l'année un peu phare qui a lancé, qui a marqué TDE, enfin qui fait reconnaître TDE vraiment nationalement, c'est 2012 où il y a vraiment les quatre membres du groupe Black Hippie qui sortent, Kendrick Lamar qui sort Good Kid, Mad City, Schoolboy Q qui sort Habits and Contradiction, je crois que c'est comme ça.
Ouais, c'est ça.
J-Rock qui sort ouais, voilà.
De Schoolboy Q, c'est tout ce qu'il sait faire, tu le vois dans cet album-là.
J-Rock qui sort Follow Me Home et Absol qui sort Control System. Voilà, il y a vraiment ce label qui explose. Après, Kendrick Lamar, bon voilà, on va pas. Aujourd'hui, il est vraiment dans d'autres bails, c'est-à-dire qu'il est toujours impliqué sur les albums des uns des autres. Après, lui, il est dans d'autres trucs. Il collabore plus avec des mecs hors rap, en fait, comme justement George Clinton sur le premier morceau qu'on vous a mis, Thundercat, Anderson Paak, donc qui est un moitié un rappeur, comment il s'appelle, Flying Lotus aussi. Enfin, il collabore plutôt avec ces gens-là, ils font un son entre jazz, jazz funk, etc. Bon, c'est assez incroyable. En tout cas, l'album To Pimp a Butterfly est un album. Un des albums les plus importants
de ces dernières années, ouais, carrément. 100%. Et encore une fois, je pense qu'ils mériteraient une émission à eux.
Ouais, on peut pas faire le tour en une petite partie d'émission comme ça, donc on va juste faire un bref. Enfin, on a juste fait comme ça un bref aperçu. On va se mettre un petit Schoolboy Q du coup pour illustrer de son album, un peu un de ses plus gros succès, je pense quand même, qui est Oxymoron, et le morceau s'appelle donc Break the Bank.
De retour après cette mi-temps musicale, après Schoolboy Q, Break the Bank, et on s'est écouté le deuxième son qu'on n'a pas annoncé tout à l'heure, qui était Dom Kennedy
featuring Overdose.
The Four Heartbeats.
Heartbeats.
Toujours voilà. Cet anglais parfait de
donc en face une par émission. Et donc on attaque cette nouvelle partie où Jojo, je crois, tu vas nous parler de Dom Kennedy, justement, personnage.
Voilà, ce son n'était pas mis là innocemment, évidemment. On va donc parler de Dom Kennedy essentiellement, et un peu de tous les gens qui ont fait du son avec lui, un peu tout ce qui représente pour moi, et en tout cas, enfin voilà. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment la continuité, le revival du son G-Funk dont on avait parlé la dernière fois. Moi, je le considère comme l'héritier de DJ Quick, parce que vraiment, c'est les mêmes thèmes, tu vois. C'est que la teuf, que les seufs. Il parle que de cul et de fête. Son flow, il est un peu. Vous avez pu l'entendre, il est très nonchalant. On peut le rapprocher d'un Snoop Dogg et d'un Too Short, même si les deux sont un peu plus, quand même, très précis dans leur articulation, alors que lui est plus. Il mâchonne un peu ses mots, quoi. Mais en tout cas, je trouve vraiment que les sons qu'il fait, en général, ça me transporte dans une décapotable à LA. T'as l'impression vraiment d'être au soleil, là, par n'importe quel temps. Même là, même si là, on est en hiver, vraiment, t'écoutes ça, tu te dis, ok, là, t'es au soleil, dans une décapotable, tu chill, etc. C'est un certain délire. Moi, je kiffe bien. Je trouve qu'entre... Enfin, il est moins en forme, quand même, depuis quelques années, mais entre 2010-2013... On se régale, on va dire, hein, franchement, l'album From the West Side with Love, l'album Yellow Album, Get Home Safely, c'est vraiment des purs moments de ride intense.
Ça paraît, c'est 2010, quoi. On est toujours sur la même période.
Ouais, c'est ça. Bah, lui, c'est vraiment, il fait partie quand même du Renault. C'est vraiment, t'as l'impression que, petit moment où elle est, à partir du moment où on est passé en 2010, il y a un certain nombre de choses qui se sont mises en place et qui ont changé, quoi. Enfin, on va dire que le projecteur s'est un peu rebraqué là-dessus. Et lui, en tout cas, voilà, il a fait un peu revivre ce délire de ride et tout. Je sais plus si on en a parlé tout à l'heure, mais dans les albums que j'ai évoqués, là, il y a beaucoup de productions qui sont de THT, qui ont aussi beaucoup produit pour TDE. Il y a le duo Futuristics aussi, qui ont produit la majorité de son album Get Home Safely, et aussi Polyester, The Saint, qui lui aussi a fait son truc de son côté, qui a collaboré avec des artistes, etc. Enfin, à la base, c'est plutôt un producteur, il a rappé aussi, mais c'est pareil, lui, donc début 2010, 2011, etc., il fait vraiment des albums, tu te retrouves à écouter du G-Funk, c'est un peu modernisé, tu vois, mais il y a quand même ce son G-Funk qui est très présent. Et notamment, un de ses collaborateurs, c'est J. Perico.
Monsieur Perroquet.
Un sacré énergumène. Il n'est pas tout à fait dans la même clique, c'est-à-dire qu'il est arrivé un peu plus tard. Au début, il était vraiment, lui, dans un délire de revival du G-Funk avec des mecs de Vancouver qui ne sont pas de LA, qui s'appellent London Drugs. Et eux, ils font vraiment vraiment dans une G-Funk en 2015, quelque chose comme ça. En tout cas, je conseille vraiment, vraiment éminemment les deux albums qu'il a sortis en 2017, qui s'appellent All Blue et To The Left, et aussi l'album en commun qu'il a fait avec Jay Worthy, donc qui fait partie du duo de London Drugs que j'ai évoqué, et Cardo, qui lui non plus n'est pas de LA, mais qui, vraiment, lui, dans ses productions, il a fait plein de trucs avec Wiz Khalifa, plein de trucs, il a fait aussi deux séries de mixtapes avec un mec de Détroit qui s'appelle Payroll Giovanni, mais là c'est pareil, c'est on te propulse dans une Cadillac au soleil, enfin tu vois, c'est un des producteurs phares qui est encore dans ce délire ride et tout, très très bon producteur, hein. Et du coup on propose
moi ce que je voulais juste rajouter c'est que THC, ils ont, comme je disais, ils avaient travaillé avec Nipsey Hussle, c'est les producteurs maison de TDE. Donc au final, même si chacun est un peu dans, entre guillemets, dans son coin, parce qu'ils, enfin, pas dans son coin, mais tu sais, ils sont très quartiers à Los Angeles, mais au final, tout le monde bosse ensemble, et c'est tous les gens dont on a parlé jusqu'alors, c'est vraiment eux qui ont remis LA sur la carte du rap, sans trahir l'identité, mais en la modernisant. Et J. Perico, ouais, j'aime bien le délire de... c'est le côté permanente, quand je dis permanente, c'est les cheveux longs à la Snoop, là, ils ont tous décidé de se lisser les cheveux, etc.
La pochette de All Blue est très très drôle, du coup, je vous la conseille.
Ah oui, il a un côté très drôle. Et du coup, pour conclure cette petite partie-là, on va s'écouter un son de G. Worthy, qui s'appelle Scandalous, et on se retrouve après.
G. Worthy qui est...
qui est donc le trio que j'ai évoqué avec Jay Worthy, donc le rappeur de London Drugs, et donc produit par Cardo. Très bon morceau qui, à mon avis, va bien vous faire comprendre qu'on est à LA, quoi.
Ok, on s'écoute ça et on se retrouve pour la dernière partie. À tout de suite. On vient de s'écouter Scandalous de G. Worthy. On va conclure avec cette dernière partie, qui sera conclusion, mais on va quand même évoquer quelques personnages. On n'a pas eu le temps de parler. C'était un peu dur de traiter tout le monde aujourd'hui parce que la scène est suffisamment large quand même.
C'est-à-dire qu'on a essayé de se focaliser sur les artistes qui avaient vraiment une identité californienne et qui réfléchissaient un peu ce dont on avait parlé.
Oui, et puis des choix aussi un peu personnels par rapport à ce qu'on a pu kiffer. Donc, par exemple, Kendrick, on a parlé un petit peu moins. Vous pouvez largement vous renseigner là-dessus. On a pu plus insister sur Nipsey Hussle, par exemple. Un des personnages qui, justement, on n'a pas évoqué, mais dont on doit dire deux mots, Jojo, c'est toi qui vas en parler.
Je suis obligé d'en parler. Vince Staples, a.k.a. si tu fais la traduction, c'est Vincent Lagraffe. En tout cas, moi, c'est un de mes rappeurs préférés, je pense, actuellement. Et c'est, en tout cas, le rappeur le plus drôle en interview. Il faut aller regarder. Il est hilarant. Il est un peu à part, c'est-à-dire qu'il est vraiment dans son coin, il a pas vraiment de team, enfin si, il a quand même des mecs qui rappent avec lui, mais il est moins, on va dire, imbriqué dans un collectif, etc. Mais il a quand même fait des sons un peu californiens, si t'écoutes ses premières mixtapes, il fait des sortes de remix, genre il y a un remix d'Ain't No Fun, mais qui est un peu genre un peu dissonant, bizarre, enfin c'est assez étrange. De Snoop Dogg, oui, qu'on vous a d'ailleurs passé lors de la dernière émission. Donc, en fait, il a un côté un peu décalé, tu vois, c'est-à-dire qu'il est toujours dans un côté décalé, c'est-à-dire que c'est à la fois déprimant, des fois, c'est des trucs, il parle de sujets hyper durs, le suicide, etc. Et en même temps, il le fait avec énormément d'humour, enfin, c'est un personnage vraiment assez décalé, assez drôle, et que je trouve qu'il y a... Depuis 2014, il a sorti presque un projet par an. Je trouve que c'est toujours bien. Notamment en 2015, Summertime 06, qui est pour moi vraiment un des meilleurs albums des 10 dernières années. C'est génial, c'est produit par No ID, donc ça n'a plus grand chose à voir pour le coup avec LA. No ID, il fait partie de. C'est un producteur de Chicago.
Kanye West, entre autres.
Voilà, c'est un peu le mentor de Kanye West. Et
ok, donc Vince Staples dans ton top. Quoi, dans
voilà. Le top de et le dernier album, il a un peu fait un hommage au rap de LA, etc. Donc,
dernier album qui s'appelle.
Qui s'appelle. J'ai pas le titre en tête. Je me souviens.
Ah, pardon.
On va vous le trouver.
Pas Donna.
Non, ça c'est Prima Donna, c'était avant. Ouais.
Ah d'accord, ok.
Mais alors, un autre groupe d'ailleurs, dont moi j'ai envie de parler, qu'on pouvait pas laisser de côté, qui est pareil, de LA, qui fait partie de cette tendance revival de LA, mais qui fait pas du son du tout californien, c'est Hot Future. C'est, alors, c'est pas le groupe de Tyler the Creator, mais bon, c'est clairement lui le leader du groupe. C'est un collectif qui s'appelle Hot Future, mais c'est le diminutif de Hot Future Wolfgang Kill Them All, Cimer. Pas envie de prononcer tout ça. Et donc qui est un collectif de LA, c'est clairement un groupe qui a émergé via internet, parce que les mecs ont multiplié, enfin ils se sont fait connaître sur MySpace, des trucs dans le genre, Answer, enfin eux ils sont grave passés par les réseaux sociaux pour se faire connaître, c'était pas des précurseurs mais c'est les premiers à avoir fait ça. Et les trois mecs qui ressortent de ce groupe là, c'est Frank Ocean, Tyler the Creator bien sûr, et Earl Sweatshirt. Je vous conseille la discographie de ces trois mecs là, faut savoir que Hot Future, ils sont peut-être une dizaine dans le groupe. Il y a des beatmakers, des acteurs, des skaters.
C'est aussi les clips qui sont complètement fous.
Ouais, les clips sont très fous. Et comme je le disais, ils ont fait partie de cette tendance revival. Et là, ils apportent tout. Ils ont en fait ce nouveau style californien un peu hipster de la jeunesse qu'ils ont apporté un peu aux yeux du monde via internet. Et pour moi, je les classe un peu comme Vince Staples dans ce côté LA. Mais décalé. Musicalement, ça n'a rien à voir.
Ouais,
mais,
pareil. Ouais. Bah, là, ça demanderait du temps, pareil, à approfondir, parce que ils ont vraiment tout un univers et très bons rappeurs. Donc, n'hésitez pas à les voir. On peut, même si on peut pas trop évoquer ça en plus. Peut-être aujourd'hui, 2-3 noms de mecs qui ressortent.
Les mecs qui ressortent aujourd'hui, c'est essentiellement O3 Greedo et Drake House The Ruler. Pas vraiment parler d'avenir, parce que les deux sont en prison. Mais en tout cas, leur son est pas très californien pour le coup. Je crois
de ressortir et de repartir là-dedans.
Pardon ?
Leur avenir n'est pas terminé pour autant. On va pas
non, bien sûr que non. Mais je veux dire, c'est-à-dire que leur avenir immédiat est un peu bloqué. Mais de toute façon, en tout cas, on n'est pas dans un son forcément typé LA. C'est plutôt de la trap. On va dire que c'est quand même très influencé par Atlanta. En dehors de ça, il y a aussi Blueface, dont on a beaucoup parlé, qui est le mec qui ne rappe pas sur le beat. Il y a eu tout un mème et tout, c'est assez drôle, mais n'empêche qu'on en a quand même beaucoup parlé. Il y a eu Brockhampton aussi, qu'on n'a pas évoqué, qui a sorti une année 2017 de folie, franchement, la série des mixtapes, ou mixtape album, je ne sais pas trop, qui s'appelle Saturation 1, 2, 3, c'est vraiment, vraiment cool, il faut aller écouter. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent, on n'a pas pu tout évoquer parce que c'est trop vaste si on devait rentrer dans le détail de tout.
Et... D'ailleurs, n'hésitez pas à nous faire part sur les réseaux sociaux, notamment sur notre page Facebook Deeply Rooted, l'émission, de choses que vous voulez qu'on approfondisse. On pourra vous envoyer quelques liens, etc., sur des artistes dont on n'a pas pu parler plus en profondeur aujourd'hui. Au moins, ça vous a donné un petit aperçu de la scène de Los Angeles depuis 2010, donc principalement.
Qui est très vaste, hein. il y a beaucoup de talents, beaucoup de choses à écouter.
C'était le but, hein. C'est juste une porte d'entrée. Si ça, il y a des choses qui vous intéressent, qui vous ont plu dans les sons qu'on vous a mis. Voilà,
on a essayé ce soir en plus de vous mettre un peu plus de son pour vous mettre dans l'ambiance. On va vous balancer une playlist aussi prochainement, comme d'habitude, pour approfondir et vous donner de quoi raider tranquillement dans les rues de votre patelin.
De Crenshaw ou de Bourg-en-Bresse ou de Poteau Combo.
N'hésitez pas à liker, à partager l'émission. Si vous aimez, si vous voulez soutenir donc sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous retrouver en podcast rapidement sur Mixcloud et sur les plateformes de streaming. Et on vous dit au mois prochain.
Yes.
Oui, et du coup, on va se laisser sur un son de Vincent Lagraffe et Kevin Staples qui s'appelle Fun. C'est sur son dernier album que j'ai évoqué tout à l'heure qui s'appelle du coup FM. J'avais oublié le nom. Du coup, Fun, le titre est assez chaud et... Il y aura un petit invité surprise qui s'appelle E40, qui me fait plaisir.
Allez, bonne soirée.
Ciao. Bonne soirée, ciao.